Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'Agence européenne de contrôle des frontières déploie des renforts. Les migrants se massent toujours par milliers entre la Turquie et la Grèce pour entrer en Europe. Alors qu'en Syrie, dans le même temps, les habitants fuient le nord du pays, les bombardements entre Turcs et régime syrien sont incessants. Le coronavirus a fait plus de 3000 victimes dans le monde. Chaque pays prend des mesures pour tenter d'endiguer cette épidémie. En France, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont annulés les uns après les autres. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement confirme l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée. L'opposition prépare la riposte, vous l'entendrez. Et puis nous irons en Israël. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les troisièmes législatives en 11 mois. L'offensive militaire de la Turquie contre le régime de Bachar el-Assad se poursuit donc. Hier, deux avions syriens ont été abattus, 19 soldats ont été tués. Les frappes sont incessantes. Et dans le même temps, Ankara maintient la pression sur l'Europe, car les Turcs laissent passer des milliers de migrants, de la Syrie notamment, vers la Grèce. La présidente de la Commission européenne se disait hier préoccupée. Ursula von der Leyen estime que la priorité est d'aider la Grèce, la Bulgarie et Chypre, pays en première ligne d'une arrivée massive. L'agence européenne de garde-côtes Frontex est en état d'alerte, Johanna Hochstein.
Dans le cadre de l'opération Poséidon, quelques 400 gardes-côtes de l'agence Frontex sont actuellement déployés à la frontière gréco-turque pour contrôler les flux migratoires. 60 agents se trouvent aussi en Bulgarie. Des moyens qui vont être revus à la hausse, a annoncé l'agence Frontex. Du personnel et du matériel vont être envoyés en renfort en Grèce. L'agence européenne surveille également attentivement la frontière chypriote. Ces annonces font suite aux menaces de Recep Tayyip Erdogan de laisser passer les migrants souhaitant rejoindre l'Europe, contrairement à l'engagement qu'il a pris. En 2016, le président turc avait accepté de prendre en charge les réfugiés syriens sur son territoire en échange d'un soutien financier de l'Europe de 6 milliards d'euros. Mais Ankara se plaint régulièrement de retard dans le transfert de ces fonds. En fait, un peu plus de la moitié de l'enveloppe a effectivement été déboursée pour le moment. Le président turc, qui veut aussi faire pression sur les dirigeants européens pour les forcer à le soutenir dans ses opérations militaires en Syrie. Pour coordonner les prochaines actions de l'UE, le commissaire européen à la migration, le grec Margaritis Skinas, appelle à une réunion extraordinaire des ministres européens de l'Intérieur.
Le coronavirus touche déjà plus de 85 000 personnes et des dizaines de pays à travers le monde. La Chine toujours, mais aussi la Corée du Sud, où le bilan est de 4 212 personnes contaminées, dont 22 personnes décédées. L'Iran fait état de 54 morts, 34 en Italie. Le nombre de personnes touchées a doublé en Allemagne ce week-end. Il est de 130 personnes contaminées en France. La France, où les rassemblements en intérieur de plus de 5 000 personnes sont annulés. C'est le cas du Salon du Livre qui devait avoir lieu dans 2 semaines. L'économie de la culture est touchée, l'économie du spectacle surtout, et l'inquiétude monte, Jacqueline Pétroz.
80 salles fermées en France peuvent accueillir 5000 spectateurs ou plus. Plusieurs annulations sont déjà annoncées. À Nantes, le concert du 7 mars au Zénith de Maître Gims et les 7 et 8 mars, le salon Paris Manga. Les professionnels, conscients de l'enjeu sanitaire, demandent cependant un cadre juridique. Malika Seguino, directrice du PRODIS, syndicat des producteurs.
On comprend bien qu'il y a une inquiétude de santé publique. Nos professionnels sont parfaitement responsables. Ils ont seulement besoin de connaître le cadre précis de cette mesure, puisque à ce jour, nous n'avons toujours pas de texte officialisant, donc il n'y a pas de base juridique à cette interdiction. Nous avons la déclaration du ministre de la Santé hier, mais rien d'autre.
C'est encore un peu la confusion. Pour les salles de 5000 places, les professionnels peuvent réduire la vente pour passer en dessous de la barre, mais on constate que sur les sites, certains grands événements sont toujours à l'affiche, comme la Nuit de la Bretagne, le 7 mars à Nanterre, avec 40 000 personnes. Selon le ministre de la Culture, Franck Riester, les préfets devraient prendre cette semaine des décisions administratives. Du côté des musées, si le Louvre restera fermé ce matin pour une réunion du comité de santé et de sécurité, il n'est pas en fait concerné par la mesure, malgré le nombre de visiteurs, parce que ceux-ci se déplacent et ne restent pas confinés.
L'opposition a crié au scandale ce week-end car cette interdiction de se rassembler à cause du coronavirus a été annoncée quelques heures seulement avant que le Premier ministre ne confirme ensuite l'utilisation du 49.3 pour la réforme des retraites. Une façon, disent certains, d'empêcher toute manifestation. L'article 49.3 de la Constitution sera utilisé cette semaine. D'ici là, deux motions de censure seront débattues et votées contre le gouvernement. Elles ne devraient pas aboutir puisque la majorité reste présidentielle. Le texte qui arrivera au Sénat sera donc celui du gouvernement, Delphine Simon.
300 amendements ont été intégrés à cette nouvelle mouture des dispositions discutées avec les partenaires sociaux comme le compte professionnel de prévention ou le congé de reconversion de 6 mois. Le texte reprend aussi la totalité des amendements déposés par la majorité pour améliorer les droits à la retraite des handicapés, des femmes et des familles, comme la reversion des conjoints divorcés par exemple. Symbolique, la suppression de l'article 65, rebaptisé BlackRock car il ratifie des ordonnances sur l'épargne retraite. Par souci d'apaisement aussi, certains amendements de l'opposition ont été intégrés, dont un amendement communiste qui instaure une clause du grand-père pour les égoutiers. Aucun, en revanche, venant de la France insoumise. Reste à prendre en compte la pénibilité, une priorité pour la CFDT. Le MEDEF y est farouchement opposé. Matignon repousse le sujet après la conférence de financement des retraites, dont l'objectif est, dit-on, de rapprocher les points de vue. Comme l'a écrit Édouard Philippe dans sa lettre au syndicat, la fin des débats en première lecture n'est pas un aboutissement.
Des syndicats qui se retrouveront ce matin pour acter d'une éventuelle mobilisation avec en tête Force ouvrière et la CGT. C'est aujourd'hui la date limite pour les entreprises de 50 à 250 salariés pour publier leurs notes en matière d'égalité salariale femmes-hommes. Un auto-diagnostic imposé par la loi qui se base sur 4 indicateurs, l'écart de rémunération, l'écart de taux d'augmentation individuelle et de promotion, le nombre d'augmentations post-congé maternité et le nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations dans l'entreprise. La société d'expertise en assurance, ADEN, par exemple, a obtenu la note de 81 sur 100. Une bonne note, donc. Il faut dire que la directrice générale est une femme de conviction, Florence Bernetti.
En tant que femme, on fait un peu plus attention à ces choses. Voilà, dans notre carrière, il y a des choses qu'on voit. Soit des femmes qui n'étaient pas augmentées à leur retour de congé maternité, alors que sur la durée de présence, il y avait une très belle performance. Des postes qui ne leur étaient pas proposés. Voilà, donc moi, c'est des choses que j'ai pu constater vraiment. Après, en pratique, on a envie d'arriver à corriger le tir quand on en a les moyens, ce qui est mon cas aujourd'hui. Voilà, je jette la pierre à personne, mais les experts se recrutent entre eux et on a eu des postes qui étaient par le passé pas forcément ouverts à tous, mais plutôt par cooptation. Voilà, et donc par déduction, on avait aussi beaucoup d'hommes. En tant que femme DG, je souhaite vraiment encourager les femmes à postuler à ces postes, de métiers un peu moins connus et techniques, et à des postes de direction, parce que c'est possible. Elles en ont elles-mêmes pas forcément conscience, elles s'auto-censurent, alors que avec leurs compétences, elles sont vraiment à égalité avec les hommes. Enfin voilà, on a vraiment structuré en termes de process RH pour être le gardien du temple de cette égalité au quotidien.
Des propos recueillis par Annabelle Grelier. Ils vont voter pour la 3e fois en moins d'un an. Les Israéliens sont appelés aux urnes ce lundi pour de nouvelles législatives. Le choix est toujours le même. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, à droite, ou le centriste, Benny Gantz. À l'aube de ces élections, notre envoyé spécial s'est rendu dans le nord d'Israël, dans le triangle de Galilée, une région qui borde la Cisjordanie et où vivent près de 300 000 Arabes israéliens. Le projet de paix de Donald Trump ces derniers mois veut les intégrer au futur État palestinien prévu par le président américain. Mais eux refusent et ils tiennent à leur citoyenneté, Omar Waman.
Située à flanc de colline, la ville de Houm el-Fahem est la plus peuplée de ce territoire qui longe la frontière avec la Cisjordanie. Ici, on ne veut pas d'un rattachement au futur État palestinien prévu par le plan de paix de Donald Trump, le maire Samir Sobhi.
C'est hors de question, pas seulement pour moi, mais pour tous les habitants de la ville.
Des habitants qui ont manifesté à plusieurs reprises contre cette proposition et qui aujourd'hui devraient se rendre très nombreux dans les bureaux de vote, c'est en tout cas la conviction du député Youssef Jabadrin.
En fait, lorsque ce plan a été rendu public, cela a provoqué une grande colère au sein de notre communauté. Et je suis sûr que cela va encourager les gens à aller voter, et notamment les jeunes.
To come out and vote.
Et pour appeler la population à aller voter, les jeunes ne sont pas les derniers. Mai, une lycéenne de 18 ans, arpente les rues de la ville et frappe à toutes les portes.
Je fais ça pour ma ville, pour mon peuple.
Tous disent être attachés à leur citoyenneté israélienne, comme Ali, un vieil homme assis dans sa boutique de bricolage.
Je suis palestinien d'origine, mais aujourd'hui je suis israélien et je vis en Israël. Et ça, ce n'est pas négociable.
Solidaires des Palestiniens, ces Arabes israéliens ne veulent pas pour autant être privés de la citoyenneté du pays où beaucoup sont nés.
C'était notre envoyé spécial en Israël, Omar Ouaman. La météo en France, c'est assez simple. De la pluie et du vent sur tout le pays, avec 7 degrés à Paris ce matin, 14 à Marseille.